Il est 22h sur Europe 1. Tout de suite le journal avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Karima, bonsoir à tous. Voici les titres de votre journal. Elle était l'inoubliable Thérèse dans Le Père Noël est une ordure. La comédienne Anémone nous a quittés aujourd'hui. Elle avait 68 ans. On est à la veille d'un 1er mai très redouté par les autorités qui craignent des débordements en marge des défilés de la fête du travail. Le gouvernement promet la fermeté envers les casseurs. Fermer ou rester ouvert, c'est le dilemme des commerçants sur le trajet des manifestants. Les syndicats d'Auchan craignent un plan social d'envergure. 21 sites sont mis en vente, 700 emplois menacés. Est-on en train d'assister à un coup d'État au Venezuela? Un groupe de militaires qui soutiennent l'opposant Juan Guaido a, semble-t-il, lancé une offensive. Des heurts en ce moment à Caracas, nous dira Pauline Jacquot. Et puis le foot et le PSG battus par Montpellier en match en retard de Ligue 1. Ce soir, les Parisiens se sont inclinés 3-2. Décidément dans une très mauvaise passe après leur défaite en finale de la Coupe de France samedi contre Rennes. Côté météo, ce 1er mai sera plutôt ensoleillé, mais loin d'être estival. Attention à la pluie, notamment en Bretagne. Prévision complète de Valérie Darmon à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Yves Marin. Il est spécialiste de la grande distribution et il reviendra notamment sur les difficultés d'Auchan. Europe 1. C'est donc une comédienne populaire, appréciée des Français, qui nous a quittés ce soir. Anémone, de son vrai nom Anne Bourguignon. On l'aimait notamment Anémone pour son rôle culte de Thérèse dans Le Père Noël est une ordure.
Joyeux Noël, Pierre.
Ah, c'est pour moi ? Oh, écoutez !
J'espère que ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout.
Oh non, écoutez, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Oh ! Oh ! Ah ! Une serpillière, c'est formidable, Thérèse, je suis ravi, écoutez.
Non, Pierre, c'est un gilet.
Ah oui ? Ah ben bien sûr. Ah ben alors, bien sûr, c'est un gilet, il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, je suis ravi, Thérèse.
Et point de vue coloris, parce que j'avais pensé à un joli camaïeu de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera. Puis c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde. Hein.
Ah, mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien.
On ne s'en lassera jamais. Anémone, aux côtés de Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure. C'est avec lui et avec toute la troupe du Splendide qu'elle avait débuté sa carrière de comédienne, couronnée du César de la meilleure actrice en 1988 pour son rôle dans Le Grand Chemin. Anémone avait 68 ans, elle était très malade depuis 2 ans et avait mis un terme à sa carrière. Alors on disait d'elle qu'elle était irrévérencieuse. Josiane Balasco parle ce soir d'une excentrique du cinéma. Michel Blanc lui rend hommage aussi à sa façon. Elle avait cette puissance comique, elle était très belle, très séduisante et très folle. Analyse que partage d'ailleurs Patrice Lecomte, qui l'avait notamment dirigée dans Ma femme s'appelle Revient.
Anémone, elle était barrée, mais elle n'était pas barrée d'une manière absurde. Elle était largement barrée, mais d'une manière chaleureuse, joyeuse, imaginative, inventive. Et c'est pour ça que je l'aimais beaucoup. D'apprendre aujourd'hui qu'elle est partie, elle aussi, donc décidément les mois d'avril sont meurtriers, d'apprendre qu'elle est partie me trouble un peu, parce que je me dis que les grands fous qu'on a aimés sont en train de s'en aller les uns après les autres, et je sais pas trop quels sont les grands fous qui restent. Anémone, elle était allumée, quoi. Et le fait d'être allumée la rendait lumineuse.
Le réalisateur Patrice Lecomte, joint pour Europe 1 par Jean-Jacques Herry.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Dispositif de sécurité renforcé demain en prévision des manifestations du 1er mai, puisque vous savez qu'outre les syndicats et les gilets jaunes pacifiques, des casseurs ont prévu de profiter de cette journée qu'ils promettent apocalyptique. Et cet après-midi, le ministre de l'Intérieur a présenté les mesures mises en place pour tenter de limiter les débordements. Notre première responsabilité est de garantir le droit de manifester, a rappelé Christophe Castaner, qui veut à tout prix éviter les actes de violence qu'on a pu voir les dernières années. Le ministre promet donc un dispositif fort demain dans la capitale. Alors Pierre de Cossette, il y a évidemment aussi des inquiétudes en province, mais c'est bien Paris qui concentre toutes les inquiétudes. Alors à quoi faut-il s'attendre demain ?
Alors si les prévisions des services de renseignement se vérifient, il devrait y avoir 1 000 à 2 000 militants violents et radicaux, 1 000 à 2 000 casseurs en puissance, dont quelques dizaines attendus de l'étranger et plusieurs milliers de ce que les policiers nomment désormais les ultra-jaunes, les gilets jaunes les plus virulents. Le préfet de police l'admet, il ne sait pas comment les choses se dérouleront, mais tout est fait, dit-il, pour permettre une manifestation dans les meilleures conditions. Vous savez que le parcours est assez éloigné des lieux sensibles que sont les Champs-Élysées ou la présidence de la République. Le cortège doit défiler de Montparnasse à la place d'Italie, avec tout de même des points symboliques sur ou à proximité du parcours. La brasserie La Rotonde, par exemple, où Emmanuel Macron avait fêté sa victoire à la présidentielle, et la place de la Contrescarpe, théâtre des exploits d'Alexandre Benalla il y a un an. Au total, 7500 forces de l'ordre sont mobilisées à Paris pour l'occasion, avec des contrôles qui ont déjà commencé. Ce matin, un homme a été arrêté avec matraque télescopique, choqueur et couteau à cran d'arrêt. Les gares sont surveillées et les halls d'immeubles à proximité du parcours ont été contrôlés pour s'assurer qu'ils ne constituent pas de base arrière de matériel. Sur le trajet, 550 commerces vont devoir baisser le rideau et en cas d'affrontement, l'objectif sera d'interpeller au maximum avec de l'autonomie pour les policiers sur le terrain, des drones et ce chiffre marquant 190 motos à disposition des policiers. Alors attention, Christophe Castaner l'assure, ce ne seront pas des voltigeurs, il s'agit seulement d'être plus mobiles et plus rapides.
Les précisions de Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Alors on le disait, plus de 500 commerces qui se trouvent sur l'axe de la principale manifestation parisienne de Montparnasse à la place d'Italie resteront fermés. C'est le cas notamment du restaurant de Méziane sur le boulevard du Montparnasse.
Nous, je pense qu'on va fermer toute la journée, on ouvrira à la fin de la manif, quoi. 18h ou je sais pas, on ouvrira à la fin. On nous a dit de faire attention, quoi. Parce qu'apparemment, il y a 3000 Black Blocs apparemment, qui sont chauds, quoi. Donc on nous a conseillé de fermer et d'être là, d'être présent pour défendre nos biens, quoi. Moi, je vais appeler mes équipes pour qu'ils viennent rester dans l'établissement et moi-même. Et après, on verra comment ça va se passer. Parce que personne ne sait, en fait. Même la police ne sait pas trop. En tout cas, la police qui nous a confirmé, c'est que ça va être une manif un peu chaude. Moi, je passais ce matin, je voyais qu'ils étaient en train de barricader les banques et tout, les assurances. Donc c'est un peu plus serein de fermer, quoi. Parce que ce qu'on va faire.
Un restaurateur parisien inquiet donc pour demain. Notez que les contrôles ont déjà débuté, notamment dans les gares. Plusieurs personnes interpellées aujourd'hui. L'une d'elles avait une matraque télescopique sur elle. Et puis, information pratique mais importante, si vous êtes parisien ou si vous êtes en vacances dans la capitale, de nombreuses stations de métro et de RER seront fermées demain, la plupart d'ailleurs, dès 7h du matin. Au-delà de la question de la sécurité, ce 1er mai fera office de baromètre pour évaluer l'état d'esprit des Français après les annonces d'Emmanuel Macron la semaine dernière. Concernant les mesures concrètes, justement, on a des précisions sur le calendrier et les modalités de la baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes. Olivier Samain, le ministre de l'économie, a donné aujourd'hui quelques indications, notamment sur la cible.
Alors la cible, c'est celle des deux premières tranches de l'impôt. La tranche qui est taxée à 14% et celle juste au-dessus qui est taxée à 30%. Pour les contribuables qui se trouvent dans la première tranche, la baisse de l'impôt sera de l'ordre de 350 € sur l'année. Les contribuables qui sont dans la deuxième tranche verront quant à eux leur impôt baisser en moyenne de 180 €. On parle là des impôts de l'an prochain. Au total, a dit Bruno Le Maire, 15 millions de contribuables seront concernés, avec un ciblage très marqué donc sur les classes moyennes. Quant au financement de la mesure, eh bien, on n'en connaît pour le moment que les grandes lignes. Jeudi dernier, Emmanuel Macron a parlé d'un allongement de la durée du travail, de la baisse des dépenses publiques, ainsi que de la suppression de certaines niches fiscales dont bénéficient les entreprises. Sujet hautement sensible sur lequel le gouvernement va avancer dans les semaines qui viennent, dans le cadre du programme de travail qui a été arrêté hier à Matignon. Et le détail précis de la baisse de l'impôt sur le revenu, lui, sera présenté au mois de juin.
Olivier Samain, du service économie d'Europe 1.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h08 et c'est la suite de votre journal. Et dans l'actualité de ce mardi également, une renaissance dans la douleur. Renaissance, c'est en effet le nom donné par le groupe Auchan à son plan de réorganisation. Le distributeur confronté à d'importantes pertes a annoncé aujourd'hui la mise en vente de 21 de ses sites. Supermarchés, hyper, entrepôts ou drive, 723 emplois en tout sont concernés. Maud Descamps, alors que la direction avait pourtant annoncé qu'il n'y aurait pas de réduction d'effectifs.
Oui, c'est un revirement. Début mars, la maison mère du groupe français Auchan Holding avait annoncé avoir perdu 1,145 milliard d'euros en 2018. Mais elle avait en effet annoncé qu'il n'y aurait pas de coupe dans les effectifs. Finalement, Auchan France se sépare donc de 21 sites identifiés comme déficitaires. Alors, quelles sont les options pour les 700 salariés de ces sites? Soit il y a un repreneur qui décide de racheter les murs et de garder les salariés. Dans ce cas, les emplois sont sauvegardés. Soit le repreneur ne rachète que les murs ou alors il n'y a pas de repreneur. Et là, dans les deux cas, les salariés seront soit reclassés, soit licenciés. La direction d'Auchan se montre plutôt optimiste. Il y aurait des propositions de reprise pour la moitié des sites concernés, dont deux propositions très sérieuses, m'a-t-on confié, pour l'hypermarché de Ville-d'Aneuse en Seine-Saint-Denis. Du côté des syndicats, on se montre beaucoup plus prudent. Le plan n'a pas encore été négocié. Le but, disent les syndicats, c'est évidemment de sauvegarder un maximum maximum d'emplois, mais en cas de licenciement, alors là, un bras de fer va s'engager, car il sera primordial de revoir la grille des indemnités qui n'est pas du tout, selon eux, à la hauteur. Ce plan, en tout cas, montre bien les difficultés auxquelles doit faire face aujourd'hui tout le secteur de la grande distribution.
Les précisions de Maud Descamps du service économie d'Europe 1. C'était l'un de leurs derniers recours pour maintenir leur fils en vie. La Cour européenne des droits de l'homme rejette la requête des parents de Vincent Lambert contre la décision du Conseil d'État. Suite à un accident de la route, cet homme de 42 ans est en état végétatif depuis 10 ans. La situation est très confuse. Ce soir, au Venezuela, le chef de l'opposition, Juan Guaido, assure qu'il n'y a plus de retour en arrière possible pour faire chuter Nicolas Maduro. Il affirme également qu'un groupe de militaires s'est soulevé contre le gouvernement. Nicolas Maduro, lui, déclare avoir l'entière loyauté des chefs de l'armée. Bref, Pauline Jacquot, on n'avait encore jamais atteint ce niveau de tension.
Oui, au cœur de Caracas, sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on entend des détonations, des coups de feu. Les affrontements ont lieu depuis très tôt ce matin. Les manifestants se sont donné rendez-vous dans une base militaire du centre-ville, le lieu de rassemblement choisi par Juan Guaido. Le leader de l'opposition, c'est maintenant, a-t-il crié à la foule, le soulèvement, dit-il, l'opération Liberté, comme elle est appelée par Juan Guaido. Elle devait commencer demain, le 1er mai. Eh bien, le leader de l'opposition a joué, semble-t-il, l'effet de surprise.
Et ce qui ajoute à la confusion ce soir, Pauline, ce sont ces militaires qui ont, semble-t-il, rejoint les rangs de l'opposition.
Oui, ces uniformes qui défilent désormais sous la bannière Guaido. On ne sait pas encore s'il s'agit de quelques militaires ou s'ils sont plus nombreux à avoir déserté les rangs de Nicolas Maduro il y a 3 heures. Un blindé fonçait dans un groupe de manifestants. Un soldat vénézuélien fidèle au régime a été blessé par balle au niveau du cou. L'un des opposants proches de Juan Guaido s'est lui réfugié à l'ambassade du Chili à Caracas. Une chaîne de télévision locale fait déjà état à cette heure-ci de plusieurs dizaines de blessés.
Merci beaucoup Pauline Jacquot pour ces précisions en direct. Au Japon, passation de pouvoir historique ce mardi après l'abdication de l'empereur Akihito qui régnait sur le pays depuis 30 ans. C'est son fils aîné Naruhito qui lui succède sur le trône du Chrysanthème. Emmanuel Duteil, vous qui êtes passionné par les têtes couronnées, qui est Naruhito ?
Ce qui frappe vraiment au premier regard, c'est qu'il ressemble énormément à son père. Il a 59 ans, ce qui fait qu'il est jeune au regard de la société japonaise. Un quart des Japonais a en effet plus de 65 ans. C'est le premier empereur à avoir été en partie élevé par ses parents. La légende raconte même, Isabelle, que l'impératrice Michiko lui préparait elle-même ses bento pour aller à l'école. Il a eu la chance d'aller faire une partie de ses études en Grande-Bretagne, alors que la monarchie japonaise est l'une des plus fermées au monde. Il a un petit peu goûté à la liberté. Il s'est spécialisé à cette occasion dans tout ce qui est voie navigable. Comme ma vie ne me laisse que peu de chances de sortir librement, les routes sont pour moi un lien précieux vers des mondes inconnus, a-t-il déclaré il y a quelques années. C'est la même idée qui l'a poussé à jeter son dévolu sur une diplomate roturière polyglotte. Même s'il a eu du mal à la convaincre, le mariage a eu lieu, une petite fille est née en 2001. Mais voilà, ils n'ont jamais réussi à avoir de garçon, ce qui a mis une pression de folie sur le couple. Et ce qui fait que la future impératrice est devenue totalement dépressive pendant des années. Ça l'a beaucoup marqué, du coup, il pourrait être tenté de faire un tout petit peu évoluer cette monarchie aux traditions ancestrales.
Emmanuel Duteil, que l'on retrouvera tout à l'heure avec son autre casquette, celle d'intervieweur, puisque je vous rappelle qu'il reçoit ce soir un spécialiste de la grande distribution pour nous parler notamment d'Auchan qu'on évoquait il y a quelques instants.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h13, merci d'écouter Europe 1. Un champion du monde devant la justice aujourd'hui, Pierre-Ambroise Bosse, la star du 800 mètres, était jugé pour une bagarre qu'il avait opposée après une soirée arrosée à un rugbyman en août 2017 en Gironde. Et c'est donc le tribunal de grande instance de Bordeaux qui a jugé cette affaire, Stéphane Place.
Athlète longiligne, sportif de haut niveau, champion du monde du 800 mètres, qui déclare plus de 300 000 euros de revenus sur une année, constate le président du tribunal. Et face à lui, un ancien rugbyman du coin, le cou épais, les épaules larges, physique de première ligne, aujourd'hui handicapé, touchant une pension mensuelle d'invalidité de 800 euros. Près de 2 ans après les coups sur le parking du casino de Gujan-Mestras, ce sont deux hommes très différents qui se font face. Pierre-Ambroise Bosse maintient avoir reçu une claque, puis être redescendu de sa voiture, une bouteille de bière à la main, mais qu'il nie avoir jeté sur son agresseur.
Ils vont pas me faire avouer quelque chose que je n'ai pas fait et que je n'aurais jamais fait, c'est-à-dire jeter une bière au visage de mon agresseur. Donc j'espère que le tribunal ira en la faveur de notre défense, c'est-à-dire la relaxe. J'essaye consciemment de me dire qu'aujourd'hui je suis capable d'être champion olympique et que cette affaire est derrière moi.
Rixe de sortie de boîte sur fond d'alcool, souvenir flou, maître Arnaud Dupin, l'avocat de l'ancien rugbyman qui reconnaît lui avoir frappé l'athlète, ne croit pas à la version. version de Pierre-Ambroise Boss.
Consciemment, il a jeté une bouteille de bière au visage d'Anthony Etcheverry et c'est ce qui a déclenché la bagarre. Et c'est lui l'entier responsable de cette première agression.
6 mois de prison avec sursis requis contre l'ex-rugbyman, 500 euros d'amende contre Pierre-Ambroise Boss. Le tribunal rendra sa décision le 28 mai. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Et puis le foot et Paris, décidément dans une mauvaise passe en ce moment. Match en retard de Ligue 1 ce soir, le PSG, après sa déculottée face à Rennes en finale de la Coupe de France, s'est incliné à Montpellier, battu 3-2, Julien Fromont.
En effet Isabelle, le retour à la compétition pour le Paris Saint-Germain s'est fait dans la douleur à l'image de Neymar sur le troisième but montpelliérain, la tête bien basse, les regards dans le vide, qui ne comprenait pas ce qui s'est passé sur le terrain. Paris s'est une fois de plus délité avec des erreurs individuelles, collectives, mais ce soir, il y a eu une faillite notamment du côté du champion du monde, le défenseur Presnel Kimpembe, dans tous les mauvais coups, mais aussi la recrue Paredes, achetée à prix d'or 47 millions d'euros cet hiver. C'est lui qui offre le troisième but des Montpelliérains. Bref, rien ne va du côté du Paris Saint-Germain. Les joueurs sont allés s'expliquer, notamment avec leurs supporters. Le capitaine Marquinhos est venu parler avec les cadres du collectif Ultra Paris. Les stadiers ont notamment dû intervenir à la fin après un mouvement de foule. Bref, soirée compliquée pour le Paris Saint-Germain et le prochain match au Parc des Princes, ce sera samedi à 17h face à Nice et là aussi, ça risque d'être tendu.
Merci Julien Froment au stade de la Mosson et puis en Ligue des Champions, on joue en ce moment la première demi-finale aller Tottenham Ajax Amsterdam et ce sont les Néerlandais qui mènent pour l'instant à 52 minutes de jeu. Demain, Barcelone sera opposé à Liverpool. Et on jette un œil sur la météo avec vous, Valérie Darmon. On a eu plutôt beau temps aujourd'hui, Valérie, et ce sera aussi plutôt beau demain.
Absolument, en dépit d'un ciel de plus en plus nuageux tout de même, sur le nord-ouest de la France, jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine, et d'ailleurs quelques ondées aussi qui se déclencheront sur la pointe bretonne au lever du jour. Et puis ce sera autour de la Normandie, des Pays de la Loire, des Poitou-Charentes et du Limousin de voir leur ciel s'ennuager. Sur les plaines du sud-ouest, une fois dissipés les brouillards du matin, notamment sur les Landes, le ciel sera plus lumineux, juste voilé. Et sur la façade est, la journée débutera sous des plaques de nuages bas ou des bancs de brouillard, notamment du nord de la Seine à l'Auvergne. Mais dès la mi-journée, vous retrouverez le soleil qui domine aussi en Méditerranée. Les minimales seront comprises entre 2 et 8 degrés en général dans les terres. Un peu plus douce en bord de mer, avec 14 sur les plages justement du pourtour méditerranéen. Les maximales afficheront 14 à 16 près de la Manche, 17 à 20 sur le reste de la moitié nord, 18 à 22 sur un bon tiers sud et jusqu'à 23 à 24 du Languedoc-Roussillon à la Provence.
La météo signée Valérie Darmon,
Europe 1.
Et dans un instant sur Europe 1, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Yves Marin. C'est un spécialiste de la grande distribution qui reviendra notamment sur les difficultés d'Auchan. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h18, comme tous les soirs sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse et c'est avec vous Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et les marchés qui sont partagés ce soir à Wall Street.
Oui, on a un Dow Jones qui résiste et qui grappille 0,15%, 26 592 points. C'est plus compliqué pour le Nasdaq qui accuse une baisse de 0,66%, 8108 points après un record historique tout de même hier. Pas de prise de risque donc avant la fin de la réunion de la Fed, la banque centrale américaine qui dure jusqu'à demain soir. Et c'est surtout Alphabet, la maison mère de Google, qui déprime les marchés ce soir. L'action plonge de 7,7% à cause d'un chiffre d'affaires qui déçoit et d'une performance qui contraste avec celle plus solide de ses rivaux Amazon, Facebook ou Twitter. Forte baisse également pour Apple, qui doit dévoiler ce soir ses résultats trimestriels, moins 1,9 pour Apple. Donc ça va mal pour le secteur technologique, ça va mal aussi pour General Motors, le constructeur automobile. Les ventes ont reculé aux États-Unis et en Chine et la sanction, c'est un titre qui lâche 2,6%. Le pétrole termine en hausse, le WTI gagne 0,65%, 63,91 $ le baril et l'euro monte de 0,3% à 1,1220.
Et encore une petite hausse ce soir, Claire, pour le marché parisien qui sera fermé demain comme tous les 1er mai. Voilà. Mais nous, on sera là.
Wall Street sera ouvert d'ailleurs demain. Donc c'est la troisième séance de petite hausse, plus 0,10% pour le CAC. À la veille donc, de cette pause du 1er mai, on est à 5586 points. Orange est lanterne rouge de l'indice avec une chute de 2,9%. L'opérateur télécom a calé en France début 2019 avec un premier recul de ses revenus en 2 ans. Et puis ce sont aussi les déclarations des dirigeants d'Orange qui inquiètent ce soir, des dirigeants qui pronostiquent une nouvelle année de guerre des promotions très agressive. Du coup, le secteur des télécoms est secoué. Iliad perd 4% et Altice Europe, la maison mère de SFR, 7,03%.
Orange et Lanterne Rouge, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais c'est pas mal comme expression. La performance de Thalès, Claire, est également sanctionnée ce soir.
Oui, Thalès qui perd plus de 5% après ses comptes. Le chiffre d'affaires a reculé au premier trimestre, plombé notamment par le ralentissement de l'activité spatiale. Ça baisse aussi pour Airbus, moins 0,9%. Les résultats sont salués en revanche pour Rexel et pour TF1. TF1 qui a démarré 2019 en trombe, dopé par les acquisitions dans le numérique et par une amélioration de ses recettes publicitaires, le titre gagne 5% ce soir. Les marchés européens ont terminé en hausse à l'exception de Londres qui perd 0,5%, Francfort plus 0,1%, Madrid et Amsterdam plus 0,6%, Milan plus 0,4%, Bruxelles plus 0,1% et le CAC avance de 0,1%, 5 586 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Claire Lemaître de Boursier.com. Et tout de suite, à 22h21, c'est l'heure de l'invité Écho.
L'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer ses timbres à tout moment.
Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir un spécialiste de la grande distribution.
Bonsoir Yves Marin.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes associé dans le cabinet Bartel. Vous êtes surtout un grand spécialiste de la grande distribution et c'est pour ça qu'on a eu envie de vous inviter ce soir. On a appris ce matin que le groupe Auchan allait se séparer de 21 magasins, notamment un hypermarché, 13 supermarchés. Il y a également des drives qui vont être cédés par le groupe Auchan. Ça intervient après d'autres cessions dans ce secteur de la grande distribution, notamment le groupe Casino a vendu beaucoup de murs ces derniers temps. Question toute simple, c'est parce que vraiment l'hyper et la grande distribution dans son ensemble aujourd'hui est en énorme difficulté?
Alors c'est vrai que le commerce organisé, le commerce de masse, la grande distribution comme on l'appelait au temps béni des colonies, a des difficultés. Elle a des difficultés d'une part parce que la consommation n'est pas là. Les Français, disons que la consommation des Français n'augmente plus. Alors que depuis l'après-guerre, les Français consommaient de plus en plus de yaourts. Chaque Français consomme aujourd'hui 28 kilos de yaourts et les Français n'ont plus faim. Ils vont pas consommer 30, 35, 40 kilos de yaourts. Donc la consommation a cessé de progresser. Et puis les amis du web sont arrivés, les amis du commerce digital sont arrivés et ont fait un coup de ciseau négatif pour les commerçants traditionnels. Et du coup, il y a trop de surface en France.
Mais on dit aussi que le modèle en tant que tel est dépassé. Trop grand, on ne vient plus acheter dans l'hypermarché son frigo, sa télévision, parce qu'on a beaucoup mieux sur Internet. On n'y achète plus du tout ses habits, alors qu'à un moment, c'était quand même une part importante de l'habillement qui était vendue là. Est-ce qu'ils ont aussi raté des virages, ces géants de la grande distribution, ces dernières années, et ont oublié peut-être de se réinventer?
Alors, c'est vrai qu'il y a des cycles, hein. Les magasins ou les types de commerçants, c'est comme les êtres humains, il y a des cycles biologiques et on n'est pas toujours au mieux de sa forme et on a des moments de coups de mou. Après, il faut relativiser. Le commerce de la grande conso alimentaire en France, ça fait 110 milliards d'euros. C'est quand même 110 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. Et donc, les hypermarchés et les supermarchés restent le format absolument dominant en France. Pour autant, c'est vrai qu'on voit des formats différents émerger, des magasins bio, des AMAP, des marchés traditionnels, des applications qui permettent d'acheter des produits dans d'autres configurations, si bien qu'on observe que les Français vont fragmenter leurs achats, vont faire plus de petits achats dans plus d'endroits différents, ce qui vient effectivement toucher au principe fondamental de l'hypermarché qui était tout sous le même toit. J'arrête le one-stop shopping, je garde ma voiture et j'achète tout sous le même toit.
Alors quand on écoute un peu les grands noms de la distribution, Carrefour, Leclerc, Auchan, on ne va pas tous les citer, ils disent quand même tous un peu la même chose, l'hyper est mort, mais vive l'hyper. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que l'hyper nouvelle génération doit fonctionner et ont tous à peu près les mêmes recettes. Donc des hyper moins grands, plus chaleureux, où on trouve beaucoup plus d'alimentaires et où, quand ils ont la chance d'avoir des marques dans le groupe qui sont un peu porteuses, on va mettre des corners. Prenons par exemple l'exemple de Casino qui veut y mettre des corners Cdiscount. Je crois qu'Auchan réfléchit à mettre des corners Decathlon. C'est ça aussi l'hyper de demain? C'est un espèce de gigantesque centre commercial au sein de l'hypermarché?
Oui, je pense que vous avez très bien résumé l'hyper de demain, qui sera plus un magasin en mode plateforme, c'est-à-dire que voilà, un lieu d'échange, un lieu de trafic où les clients vont venir, alors certains pour se restaurer sur place, la restauration est aussi un des grands axes de développement des hypermarchés, d'autres pour acheter de l'électronique dans un corner d'Arty ou Fnac. Effectivement, ce point de passage sera un point de passage figital, hein, d'un commerçant qui sera, il y aura plus des commerçants digitaux ou des commerçants traditionnels, tous les commerçants auront plein de canaux de vente, dont des canaux digitaux.
Donc ça, c'est intéressant pour cet hyper. Comme vous le disiez, on fragmente aujourd'hui nos achats et finalement, on est en train de réinventer ce qu'on a tous connu il y a une trentaine d'années, c'est-à-dire l'épicerie du coin de la rue où on faisait nos courses. C'est le format sur lequel tout le monde aujourd'hui est en train de miser. C'est vrai chez Casino, c'est vrai chez Carrefour notamment. La proximité dans les villes moyennes, dans les centres urbains et dans les grandes villes, c'est ça aujourd'hui la recherche des gens, à nouveau des commerces à taille humaine.
C'est exactement ça, à la réserve près que la proximité urbaine à l'ancienne mode, c'était le client se rend vers la marchandise. Et qu'aujourd'hui, avec les nouvelles solutions de mobilité de digitalisation, c'est la marchandise qui vient au client. Alors, soit par de la livraison en scooter ou à vélo, soit par de la livraison à mon domicile quand je ne suis pas là. Donc aujourd'hui, c'est ça qui permet aussi à des commerçants comme Leclerc, Intermarché, Système U par exemple, qui étaient absents des grandes villes, de venir avec des nouveaux modèles de livraison des grandes villes, sans avoir à payer des loyers de centre-ville. C'est le loyer de centre-ville qui coûte très cher et qui oblige aussi d'avoir un indice de prix qui est élevé.
Vous parliez au début, hein, Yves Marin, je rappelle que vous êtes associé chez Barthel et que vous êtes un grand spécialiste de la grande distribution. Vous parliez au début de cet entretien aussi des nouveaux noms qui arrivent. Alors Amazon, on ne peut pas faire une interview sur la grande distribution sans parler d'Amazon. Il y a eu un gros accord qui a été signé il y a quelques temps entre le groupe Casino et Amazon. Ça avait commencé par des produits Monoprix distribués sur la plateforme Amazon. Maintenant, on va y trouver des produits Casino. Ils vont même élargir. Amazon, c'est quoi? C'est le grand méchant qui va manger tout le monde? Ou les grands noms de la distribution, s'ils s'en sortent pas trop mal, ont les moyens de se défendre et de réagir?
Oui, Amazon, c'est le leader d'une nouvelle bande de jeunes qui sont la nouvelle très grande distribution, les GAFAM, donc Google, Amazon, Apple, Microsoft, etc., qui ont une emprise mondiale. Et ce sont ces commerçants qui dictent les standards de l'expérience client. Et c'est eux qui, quelle que soit la part de marché d'Amazon sur les crevettes, ma façon d'acheter des crevettes va dépendre de ce que j'aurai acheté dans d'autres produits sur Amazon. C'est Amazon aujourd'hui, c'est Alibaba, le chinois demain, c'est
mais d'après vous, c'est eux demain les grands noms de la grande distribution? Ou si les autres s'organisent bien, ils ont tellement de clients, ils sont tellement connus qu'ils ont tout à fait les moyens de se défendre.
Voilà. Aujourd'hui, ce qui est les grands commerçants, Carrefour, Auchan et les autres, ont passé le cap de faut-il passer une alliance avec les GAFAM, avec Amazon et les autres. La réponse est oui. Donc cette question, elle est derrière eux. La question du moment, c'est comment? Dans quelles conditions? Comment? Est-ce que c'est juste, effectivement, des tests, comme le fait Carrefour avec Google ou Auchan avec Alibaba en Chine? Ou est-ce que ce sont des alliances plus industrielles, comme le cas d'école de Casino, qui s'est allié avec un e-commerçant britannique qui s'appelle Ocado, pour construire un entrepôt très grand qui peut abriter 50 000 produits pour délivrer la région parisienne.
Yves Marin, associé chez Barthel, spécialiste de la grande distribution, était notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20.
À demain, Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour gagner du temps, plus besoin de se déplacer. Il suffit d'imprimer ses timbres depuis son bureau.
Et vous savez que demain, c'est le 1er mai. Il n'y aura donc pas de journaux dans vos kiosques et donc pas de une de la presse ce soir sur Europe 1. Je suis sûre qu'elle aurait certainement été en photo dans tous vos journaux demain si on n'était pas le 1er mai. L'actrice Anémone qui a disparu aujourd'hui à 68 ans. Allez, pour le plaisir, si on réécoutait l'une des scènes cultes ensemble du Père Noël est une ordure avec Thierry Lhermitte.
J'ai atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois.
C'est cela, oui.
Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme.
Eh bien, monsieur, c'est une très belle preuve de courage que vous nous donnez là. Et je vous passe ma collaboratrice.
Joyeux Noël, monsieur. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi.
Comment vous appelez-vous?
Je m'appelle Thérèse.
Oui, je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce. Je te mets, Thérèse,
Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus.
Voilà, scène culte du Père Noël est une ordure, on ne s'en lasse pas. La disparition d'Anémone, donc aujourd'hui, ce n'est pas SOS Amitié, mais la Libre Antenne que vous allez retrouver tout de suite sur Europe 1, bien sûr, avec Sabrina Philippe, le 39-21 pour vous joindre. Bonsoir Sabrina.
Bonsoir Isabelle.
Et pour ma part, je vous retrouve à 23h pour un prochain point sur l'info.
Oui, à tout à l'heure.